Bonjour à toutes et à tous. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes plus joyeuses que d'autres. Il y a des périodes plus faciles que d'autres. Et alors, il y a de différentes manières comment on réagit par rapport à ces problèmes en moments difficiles. Il y a ceux qui acceptent. Il y a ceux qui n'acceptent pas. À ce moment-là, il lutte. À ce moment-là, ça peut être aussi dangereux parce qu'on peut rentrer à la dépression que Dieu préserve. Et quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand on n'arrive pas à comprendre la vie, on n'accepte pas ce qui s'est passé. Et donc, on a parlé de deux choses. Soit on accepte toute situation, c'est une solution. Soit on n'accepte pas, à ce moment-là, c'est aussi une solution, parce que parfois il faut lutter contre la situation, mais parfois ça peut amener à quelque chose de compliqué. Il y a une troisième chose, voir ces moments difficiles comme un tremplin, voir les moments où on descend ces moments difficiles comme une étape pour monter encore plus haut. Oui, c'est facile à dire, c'est difficile à faire, bien sûr, comme beaucoup d'autres choses. Mais dans la vie, il y a beaucoup de visions, il y a beaucoup de réactions. Il y a parfois on réagit comme ci, il y a parfois on réagit comme ça. La troisième réaction, donc, voir dans chaque chose comment on comprend bien qu'il y avait une catastrophe ici, ou peut-être pas une catastrophe, mais tout simplement, on n'arrive pas à ce que on a voulu faire un échec ou d'autres formes, mais voir dans ça quelque chose, c'est vrai qu'il y a ces moments difficiles, mais ce même problème va nous amener à une solution. C'est une solution difficile. Pas tout le monde s'est donné de voir comme ça la vie. Surtout si on n'est pas ce qu'on appelle croyant. Donc alors à ce moment-là, on voit la vie comme quelque chose... il y a de l'hasard, il m'est arrivé telle chose, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi dire que telle catastrophe, c'est pour quelque chose de positif. C'est la vie, il y a des hauts et des bas. Là, on se trouve dans une situation difficile. Qui dit qu'on va surmonter les épreuves? Par contre, si on est croyant, on croit en Dieu, on croit à ce qu'il y a un programme dans ce monde. Ça veut dire que c'est vrai que il y a les libres arbitres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi il y a des hauts et des bas. Et pourtant, malgré tout, il y a un Dieu qui dirige. Ça veut dire que c'est un paradoxe. D'une part, dire qu'il y a des hauts et des bas, il y a des biens et des mauvais. Et d'une autre part, parfois, les mauvaises choses sont arrivées à cause de moi-même, à cause de mes comportements. Ou bien, tout simplement, à cause de mes choix, j'ai choisi quelque chose de mauvais, donc j'ai eu le résultat. Parfois, ça arrive, même si j'ai choisi quelque chose de positif, on ne comprend pas toujours la vie, mais voir dans chaque chose, comment avoir cette idée que quand même le monde est dirigé par Dieu, il y a un but, même si j'ai essayé d'éviter cette situation, dramatique ou pas dramatique, difficile, mais une fois que c'est arrivé, voir comment ça, c'est quelque chose qui va m'amener ou va nous amener d'une façon globale, le monde, même si c'est pas forcément que l'individu il va le voir, mais je me mets comme une partie d'un ensemble et voir comment le monde il va avancer grâce à ces problèmes. Soit c'est pour moi aussi, ça veut dire que moi-même je vais voir comment j'avance grâce à ces reculs, ou bien d'une façon plus globale, comment le monde va avancer grâce à ça, à ces moments difficiles personnels ou général. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir beaucoup de croyances. Il faut savoir que, comme on a dit, que Dieu il dirige le monde, il y a un projet. Et même si que parfois j'ai un projet, je fais partie des projets, j'ai la pression que je fais tout pour que le projet réussisse, et finalement, pour une raison, pour une autre raison, ça n'est pas réussi. Alors, croire que tout est pour le bien, finalement, ça va amener à quelque chose de bien. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué et pourtant, ça fait partie de la vie juive, ça fait partie de la vision juive. Alors, parfois, on voit comment ça mène à quelque chose de positif et parfois, peut-être on ne le voit pas, mais en tout cas, on le sait. Parfois, on va le voir autrement. Et cette idée, on est plein dedans dans ce sujet. Tout d'abord parce que on est le lendemain de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour assez triste dans la communauté juive. Depuis 3 semaines déjà qu'on est rentré dans une semaine que depuis presque 2000 ans, et plus exactement 1958 ans de la destruction du temple, le 12e temple. Et il y avait avant le premier temple. Alors, il y avait la destruction du temple, mais Jérusalem commençait à être détruit 3 semaines avant. Donc, c'est une période où on a gardé, donc depuis presque 2000 ans, on a gardé ce deuil pendant ces 3 semaines. Et ça arrive progressivement. Ça commence par le 17 Tammuz, là où il y avait les brèches sur Jérusalem, ça veut dire les murailles ont commencé à être fondues. Et à ce moment-là, les ennemis ils ont pu rentrer, ensuite massacrer, ensuite détruire, ensuite détruire le temple, jusqu'à le moment où le peuple se sont exilés, en tout cas une partie du peuple. Mais de toute façon, Jérusalem était détruit, le temple a été détruit. Il me semble que la semaine dernière, on a parlé un petit peu des faits que le temple, c'est pas seulement quelque chose de religieux, mais c'est quelque chose, c'est un moteur pour le monde matériel, pour le bien-être de tout et chacun. Donc alors, ça, on a l'habitude de mentionner cette période pendant 3 semaines, et surtout, le summum de cette période, c'est le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, donc le jour d'hier, jeudi, que c'était le 23 juillet, où dans la communauté juive, tout d'abord, on ne mange pas pendant plus que 24 heures. Et ensuite, il y a même d'autres choses qu'on ne fait pas, contrairement aux autres jeûnes. Mais c'est un jeûne assez sévère, à tel point qu'on est même assis presque par terre. Ça veut dire sur des chaises basses. Et il y a d'autres choses. C'est vraiment un signe de deuil. Et on lit des textes assez difficiles à entendre. Mais ça, ça dure jusqu'à midi. À partir de midi, on commence à diminuer cette deuil. Et ensuite, même ce qu'on n'a pas fait le matin, on commence à faire l'après-midi. Même au niveau de la prière, que normalement le matin on met les tefilines, donc ces objets qu'on prie avec tous les matins, et les talettes et les tefilines, donc on ne les met pas traditionnellement le matin de Tisha B'Av, mais on les met dans l'après-midi avec la prière de Mincha. Donc, parce qu'on considère que après l'après-midi, le deuil commence à diminuer, on s'assoit déjà sur des chaises normales, et il y a d'autres choses qu'on commence à diminuer l'après-midi. Et ensuite, une fois que le jeûne est terminé, donc on mange déjà, donc le jeûne est terminé, il y a d'autres notions que des deuils qui disparaissent. Il y a certains qui rajoutent, qui continuent encore une notion de deuil pour le lendemain, les 10, parce que le temple a été brûlé, commençait à être brûlé le jour, le 9 av, donc avant la tombée de la nuit, mais ça durait le 10. Et la majorité des peuples juifs, ils considèrent que le 9, où le temple commençait à être brûlé, c'est ça qui compte, donc le reste, c'est le reste. Mais il y a ceux qui considère donc le lendemain aussi, donc il continue ce deuil un petit peu plus légère jusqu'à la fin du 10e jour, mais la majorité de beaucoup de dans la communauté juive, ils le font jusqu'à midi de 10, donc aujourd'hui vendredi 24 juillet, mais il y a ceux qui pensent que puisqu'on est à la veille de Shabbat, donc le Shabbat prime sur cette deuil, donc on commence à faire des choses que pour l'honneur de Shabbat, donc quelque part depuis le matin ou même depuis le soir d'hier, donc on n'a plus certaines parties de deuil. Mais ce qui est intéressant, c'est que le deuil avance progressivement et ensuite il recule aussi progressivement jusqu'à le moment où on est sorti des deuils. Et ensuite, il y a encore quelque chose de très intéressant, c'est que lorsqu'on arrive quelques jours après, le jour de 15 Av, donc le 9 Av, 6 jours après, c'est le 15 Av, alors il est marqué dans le Talmud. Il est marqué que c'était une fête, une grande fête, à tel point qu'on n'a jamais vu. Il n'y avait pas de fête aussi grande pour la communauté juive comme le jour de Kippour et le jour de 15 Av. Alors on va revenir à ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même un paradoxe, que le jour de Neuf Av, c'est le jour le plus triste dans la communauté, et ensuite, 6 jours après, le jour de 15 Av, c'est le jour le plus joyeux. Alors même si on peut dire que c'était une autre période, on parle surtout d'une période où le temple était encore là, mais il n'y a pas de hasard dans le judaïsme. Et comme on va voir peut-être, selon le temps qu'il va nous rester, voir qu'il n'y a pas de hasard. Et donc le fait même qu'autrefois c'était une grande fête, ça restait une grande fête. Seulement que le Neuf Av, il a rajouté quelque chose pour arriver à cette notion. Alors, comme on a commencé au début de cette émission, que dans la vie, il y a plusieurs manières comment on réagit sur des problèmes. Il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui n'acceptent pas, et il y a ceux qui voient, et ils doivent voir, dans chaque situation difficile ou dramatique même, comme quelque chose qui va nous amener personnellement d'une façon plus globale à quelque chose de mieux. Ça, c'est la vision du judaïsme. C'est que le monde, il avance, même si lorsqu'on a l'impression que le monde recule, alors le monde, il avance. Il y a une phrase dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, la paracha de Varim, que là on voit que Moïse, avant sa mort, presque un petit peu plus qu'un mois avant sa mort, il répète la Torah, il répète l'histoire, il montre d'autres visions de l'histoire, il essaye de voir que la génération d'après va se comporter d'une autre manière. Donc il dit des choses, il rappelle des choses. Et parmi les choses qu'il dit, il parle de génération, de la génération d'avant, la génération actuelle, donc ceux qui vont entrer finalement en Israël. Par rapport à ceux qui n'ont pas entré, ils ont resté dans le désert. Alors, ceux qui restaient dans le désert, c'était des grandes personnes en âge, même si ils ont fauté avec les différentes fautes qu'ils ont faites, mais la faute. Malheureusement, parfois, plus qu'on est grand, lorsqu'on se trompe, c'est beaucoup plus douloureux. Il y a quelqu'un, une fois, qui m'a parlé de quelqu'un qui faisait beaucoup de belles choses. Vraiment, il a fait énormément de choses. D'une façon que extrêmement importante, que les autres ne le font pas autant que ça. Il a aidé beaucoup de monde, il a construit des institutions, etc. Et vraiment, il a aidé beaucoup de gens à tout niveau. Et il a fait une erreur. Et l'erreur était douloureuse. On ne sait pas sûr qu'il y avait une erreur, mais par rapport à celui qui m'a parlé de l'autre, comment ça se fait que l'autre il a fait l'erreur. Alors, c'est vrai que c'est une erreur, mais moi je l'expliquais que si il y a... On va prendre un exemple d'une voiture avec des petits moyens, on va dire un vélo. Et un vélo, il n'a pas une grande puissance. Et lorsque on fait une erreur avec le vélo, un accident, l'accident aussi, il peut ne pas être aussi énorme que ça. On va parler d'un grand... une voiture lourde, comme un tracteur ou bien en fait, comme un poids lourd. Alors, il a des grands moyens s'il fait une erreur, s'il y a un accident, que Dieu préserve, c'est beaucoup plus douloureux. Donc ça, c'est une vision de la vie, voir le lien entre ce que se passe et la situation. Alors, la génération qui est sortie de l'Égypte, on les considère partout comme des gens de très très haut niveau. Alors c'est vrai qu'ils ont été de très haut niveau, et c'est vrai aussi qu'ils ont fait de grandes erreurs, mais l'erreur était par rapport à leur niveau, puisque c'était des grands, des puissances, donc les puissances, lorsqu'ils ont fait une erreur, l'erreur était douloureuse. Leurs enfants, que c'était pas une grande puissance, à tout niveau, alors à ce moment-là, ils n'ont pas fait de grandes erreurs, et même les erreurs qu'ils ont faites, ce n'était pas considéré comme de grandes erreurs. En tout cas, ce qui est intéressant encore, peut-être ce n'est pas tout à fait l'idée qu'il faut développer ici, mais ce qu'il a manqué, il a manqué que la génération de la sortie de l'Égypte, qui était de très haut niveau, eux, ils n'ont pas rentré en Israël, et leurs enfants, qui aux yeux des grands, ce n'étaient pas de très haut niveau. Comme il est marqué là-bas, « V'tav pre ma chère amartem la vazie » Ça veut dire les parents, ceux qui sont sortis de l'Égypte, comme on a dit qu'ils étaient de très haut niveau, ils ont vu de grandes choses, et donc ça a influencé leur vie quand même, d'une façon très très positive. Et pourtant, leurs enfants qu'ils n'ont pas vus, c'était des enfants avec la vie facile. Les enfants qu'ils n'ont pas fait d'efforts, comme on peut dire aujourd'hui, les enfants de... les enfants des ordinateurs, les enfants que tout est facile, en fait, relativement. Donc, alors parfois on peut dire quelle est leur valeur. Je me rappelle que lorsque on était. Il y avait des chassidim qui habitaient à New York, que c'était des chassidim qui vécurent des choses très très difficiles. Il y avait. C'était difficile en Russie, c'était difficile de faire tout, et déjà vivre comme un juif, de gagner sa vie. Parce que quand quelqu'un il insistait, il voulait absolument faire Shabbat, il a carrément perdu son travail, même si il a proposé de faire autrement, mais c'était interdit. Donc c'était très très difficile d'être juif en Russie, et pourtant il le faisait. Et parfois ils ont passé des moments difficiles. Et lorsque, pas seulement parfois, la vie était très très difficile, très douloureuse, donc c'était des gens de très haut niveau, à tout niveau. Et ensuite, leurs enfants, qu'ils ont grandi déjà en Amérique, on les appelait les enfants chocolat. Donc les enfants où la vie est facile, c'est des enfants qui, à chaque occasion, ils mangent du chocolat de Nikes, on les appelait. Et donc, c'est des enfants faciles. Alors, si on compare les générations d'avant par rapport à la nouvelle génération, alors, l'ancienne génération, elle dit, mais qu'est-ce que c'est cette génération? Une génération que tout est facile, quoique ce n'est pas aussi vrai que ça, mais en tout cas, relativement. Et pourtant, dans la Torah, il est marqué que justement, ces enfants que vous avez dépréciés, comment ne pas appréciés comme tels, c'est eux qui vont prendre la terre. Ça veut dire... Eux, ils vont arriver à faire ce que vous n'avez pas arrivé à faire. Donc ça, c'est cette vision que, justement, là, on a la pression que ça ne va pas. C'est là où, parfois, ça va. Il y a un exemple dans la Chassidut qu'on amène très souvent. Et cet exemple, c'est comme un nain qui se trouve sur les épaules d'un géant. Alors, c'est vrai que le géant, il fait le travail... un géant qui lui manque quelques centimètres pour faire quelque chose tout à haut, donc il peut prendre un petit, il le met sur ses épaules, et c'est le petit qui fait le travail. Alors finalement, c'est qui, grâce à qui on a fait le travail, le nain, il n'aurait pas pu faire ce travail, il faudrait mettre peut-être 10 nains pour pouvoir arriver l'un sur l'autre, pour pouvoir arriver à faire ce travail. Mais c'est grâce au géant qu'on a fait le travail. Seulement, il lui manquait quelques centimètres. Mais ça, c'est un exemple dans la vie, justement, qu'on amène. Que oui, nous, on est des nains, mais c'est nous qui avons fait finalement le travail. Il y a beaucoup à développer dans cette idée. Donc, alors, on trouve déjà cette idée que parfois on dit sur la nouvelle génération qui ils sont. Ils ne sont pas grand-chose. Justement, c'est ça que la Torah nous dit, que non, ils sont beaucoup. C'est eux qui font finalement le travail. C'est grâce à eux, finalement, qu'on arrive à faire ce qu'on n'a pas arrivé à faire avec les grands. Pas parce que les grands, ils n'ont pas de valeur. Au contraire, tout le travail, tout le travail était fait grâce aux grands. Mais finalement, ce qu'ils ont terminé le travail, c'est les petits. En tout cas, pour revenir à cette notion qu'on a dit que ça dépend de quelle manière on regarde sur la vie. Et dans le judaïsme, on regarde sur la vie comme quelque chose de progression. On avance, même lorsqu'on a l'impression qu'on recule, même à ce moment, on avance. Alors, c'est ça un petit peu l'idée de Tisha B'Av, que l'histoire juive, l'histoire douloureuse des juifs qui continue encore, malheureusement, pour telle forme, pour une autre forme. Mais cette histoire commençait par le Nefav, où bien on a perdu beaucoup. Et à partir de là, il y avait beaucoup de catastrophes par-ci et par-là, et les gens ne comprennent pas, etc. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées dans l'histoire. Et le jour même de Tisha B'Av, à l'origine, on parle de 5 choses qui sont passées le même jour. La destruction des premiers et deuxièmes le même jour, mais en fait, dans l'histoire, il y avait beaucoup de choses qui sont passées justement le 9 av. Il y a aussi dans notre génération des catastrophes qui sont passées ce jour. Alors d'une part, c'est une vision douloureuse, mais d'une autre part, dans la vision juive, il faut voir que même les catastrophes, c'est quelque chose qu'il faut voir comment on utilise pour quelque chose de positif. C'est pour ça que le même jour de 9 av, c'est le même jour où on commence déjà. Le même jour, donc qui représente la catastrophe, c'est le même jour où on commence à diminuer le deuil progressivement, à tel point qu'on commence à dire ça y est, ça commence à s'arranger. Alors la première chose, c'est qu'il y a une certaine prière qu'on fait dans la prière de Mincha. On a dit déjà qu'on diminue le deuil par rapport à certaines choses, mais dans la prière de Mincha, on lit un texte qui est lié avec les notions de consolation. Consolation, ça veut dire qu'il y avait une catastrophe et pourtant on est consolé. Pourquoi on est consolé? Alors, il y a deux manières d'être consolé. Il faut être consolé comme certains disent, c'est comme ça, c'est la vie, il faut accepter la douleur. C'est une manière. Mais dans le judaïsme, on essaye de voir le positif. Alors là, il y a une histoire talmudique qui raconte comme ça que donc à ce moment de la destruction, il y a très très longtemps, donc à ce moment de la destruction, il y avait quelqu'un qui n'était pas au courant de ce qui se passe à Jérusalem, parce qu'il était dans la Galilée d'Israël, donc dans le nord d'Israël. Il était en train de labourer la terre, en tout cas à travailler la terre avec sa vache, et il y avait avec lui un arabe, un homme, c'est un mystère, un arabe qui l'a révélé des choses. Donc il est marqué comme ça que la vache commençait à mouiller, comment dire, faire un bruit que la vache elle fait. Et l'arabe lui dit, tu sais pourquoi elle le fait? Parce que c'est votre temple est en train d'être détruit. Et ensuite, quelques temps après, elle recommence, elle lui dit, cette fois-ci, elle le fait, parce que le Mashiach, donc le libérateur d'Israël, est né. Ça, c'est l'histoire talmudique, qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On a beaucoup de questions, et pourtant, on mentionne cette histoire, pas toute l'histoire qui s'est passée avec avec n'importe qui, on raconte. Mais le fait que les Talmud nous racontent cette histoire, ça veut dire que c'est une histoire vraie. C'est arabe, il a trouvé juste, donc c'était une notion de prophétie. En tout cas, je ne connais pas l'explication, mais on le mentionne, et depuis alors, on dit que il y avait la destruction, et tout de suite après, il y avait le début de la construction. Alors, La chose qu'il faut qu'on explique, c'est tout simplement que la destruction, ce n'est pas pour la destruction. Le but de la destruction, c'est pour construire encore plus. Donc, c'est au niveau personnel et au niveau général. Alors, à partir de là, tout de suite qu'il y a la destruction, Dieu il fait naître la solution. Alors, bien, on a quelques questions. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec quelqu'un qui vient de naître? Mais en tout cas, l'idée est là. Ça veut dire que si la génération mérite, alors on va voir tout de suite comment la construction arrive bien, bientôt après la destruction. Si la génération ne mérite pas, ça va durer encore et encore. Mais finalement, l'idée est générale, à savoir que la destruction, tout de suite avant, tout de suite après la destruction, il y a le début de la construction, et ça c'est un petit peu l'esprit des Néphab. Je sors un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça, mais on a parlé de quelques jours après, Néphab. Alors il y a deux choses, peut-être on va commencer par une chose, c'est Shabbat, on va lire donc l'Haftarah. L'Haftara, c'est l'idée de. L'Haftara, c'est l'idée, ce qu'on lit avec la lecture de la Torah, que cette semaine, ça va être la parasha de Vaetranan, la seconde parasha du cinquième livre. Et on a l'habitude de terminer avec un texte biblique, un autre, pas, qui ne fait pas partie de la Torah. Et donc, on a normalement les textes bibliques. Est lié avec la lecture de la Torah. C'est le même sujet. Si on va parler de tel sujet, alors dans le texte biblique, on parle d'un sujet, en tout cas, parfois par le sujet où on a terminé, mais parfois par un sujet principal dans la paracha, sauf quelques exceptions, quand on lit un autre sujet, comme les dernières 10 semaines de l'année, où les 3 premiers, on lit les des passages durs, ce qui ne va pas, comme on a déjà vu, des prophéties, que, comme celle de la semaine dernière, que Isaïe dit, même les animaux, ils connaissent leur patron, mais vous ne connaissez pas, et comme il parle de l'injustice qu'il y avait à Jérusalem, etc., même si qu'il termine avec quelque chose de positif, que finalement, Jérusalem, elle va être rachetée par la justice, mais il parle quand même des choses dures, parce que toujours on termine chez nous par quelque chose de positif, mais le sujet principal de ces trois haftarot qu'on lit les trois Shabbat, c'est quelque chose de dur et difficile. Mais ensuite, à partir de ces Shabbat, on est dans les sept Shabbat de consolation. Et selon le commentaire, on va d'une consolation à une autre. On avance dans la consolation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs notions de consolation. Chaque fois, on avance. Mais la première consolation commence par les deux mots qui s'appellent Nachamu, Nachamu Ami. Consolez-vous, mon peuple. Et il y a des détails. Il explique beaucoup de choses très intéressantes que ça mérite un petit peu plus de temps. Mais les notions de consoler deux fois. Pourquoi être consolé deux fois? Ça suffit d'être consolé une fois, parce que si on a perdu une chose, alors il faut le trouver, donc à ce moment-là on est consolé. Et l'explication, là aussi le temps ne nous permet pas, il faudrait reprendre la prochaine fois, si Dieu veut, et aussi sur le sujet des 15 arbres que je voulais parler aujourd'hui, mais je veux juste dire que le temple représente la présence de Dieu dans ce monde. Mais cette présence de Dieu, pour qu'il y aura, il faut trouver un exemple juste pour cette idée. Normalement, dans notre vie, il faut avoir deux côtés. Il faut avoir celui qui donne, il faut avoir celui qui reçoit. Parfois, il y a celui qui donne, et celui qui reçoit, il ne fait pas grand-chose. Beaucoup d'efforts, il reçoit. Donc, à ce moment-là, il reçoit beaucoup, mais ce n'est pas lui qui a reçu. Ça veut dire que puisqu'il a reçu gratuitement des choses, ce n'est pas quelque chose qui est lié avec lui. Donc, c'est un manque. Et ensuite, cette personne, on va dire que le maître, il lâche son élève, qui lui a donné beaucoup, et lui laisse se débrouiller tout seul. Et cet élève, il va tomber, il va trouver des difficultés, et même, il peut trouver dans des choses très difficiles. Mais finalement, il va se relever parce que c'est lui qui l'a fait d'effort. Alors ça, ça représente les deux notions des temples, des côtés de la haut, des côtés de en bas, et les deux en même temps. Imaginez-vous qu'en même temps on reçoit, en même temps la personne il réagit, il fait son effort, donc à ce moment-là c'est quelque chose de parfait. C'est pour ça que la destruction des temples, mais c'est pas seulement les temples, c'est de tout un système. Un système, et quelque part, il y a dans notre monde, il y a deux côtés. Il y a le côté divin, il y a le côté humain. Parfois, il y a le côté divin qui marche très bien, mais le côté humain ne suit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas, parce qu'on ne fait pas d'efforts. À ce moment-là, il peut y avoir des destructions. Alors, l'idée de consolation totale, c'est lorsqu'on a les deux en même temps. Ça veut dire, d'un côté, ça mérite, ça vient de là-haut, ça veut dire qu'on nous donne beaucoup. D'une autre part, celui qui reçoit, il reçoit beaucoup. En tout cas, pour terminer, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais l'idée, c'est de trouver les lignes conductoires, c'est que l'idée de destruction pour construire encore plus fort. Et ce que nous, on nous explique, c'est justement... Et puisqu'on nous a donné, nous on n'a pas suivi le système, c'est pour ça qu'il y avait des destructions pour que l'homme il rende compte, pour que l'homme il fasse des efforts. Et Dieu sait comment le peuple juif, d'une façon générale, le monde a souffert après les destructions. Et comment, quel effort on fait, même si ce n'est pas facile. Et justement, lorsqu'il y aura la construction après la destruction, ça va être une construction totale, et c'est à ça qu'on attend maintenant, une construction totale. Alors c'est ça, cette vision du judaïsme, que d'une façon générale, le monde, même au moment le plus dur, mais c'est une avance pour quelque chose de positif, même si on prend des deuils quand il arrive quelque chose de négatif, mais en même temps, il faut voir le positif qui arrive après le négatif, d'une façon personnelle, d'une façon générale, et voir que le monde, malgré tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, qu'on l'ignore pas, mais en même temps, on sait qu'il faut lutter contre les problèmes. En même temps, une fois que les problèmes sont là, il faut voir comment faire, parce que c'est une réalité, comment faire que le monde il avance vers... parce que de toute façon, il avance. Mais comment le monde il avance, comment moi, en tant que personne, peux faire que le monde il soit plus juste, le monde il soit... Il y aura plus de bien dans ce monde, ou autrement dire, le monde de Mashiach. Merci pour votre écoute et Shabbat Shalom.